Alice Latouche, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu as fait à Concertina ?
Alors, je suis intervenue dans un atelier qui s'appelle « Les murs sont la mer », aux côtés d'autres personnes, pour parler des formes d'enfermement sur les îles. Voilà. Et moi, notamment en Grèce.
Je précise que tu es sociologue, donc ouais. Tu as fait une étude quand même sur ces îles.
Mm-hmm. Alors,
qu'est-ce qui se passe en Grèce ?
Alors, pour redonner peut-être des éléments contextuels, depuis 2015 et en particulier depuis 2016, après l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, en fait, les îles grecques qui sont au bord de la Turquie, donc Samos, Lesbos, Chios, Kos et Leros, c'est des îles où on bloque les migrants en attendant qu'on étudie leur dossier d'asile. Et à partir de 2020, on va avoir une pratique qui va se systématiser, ça s'appelle des pushbacks. C'est une pratique illégale, donc de renvoi illégaux en mer, où en gros, on va empêcher même les migrants qui partent de la Turquie, qui traversent la mer Égée, d'atteindre les îles et d'atteindre l'Union européenne. Soit on les attrape sur les îles, les gardes-côtes grecs vont les attraper sur les îles et vont les ramener dans les eaux territoriales turques. Ils vont les abandonner sur des canots de sauvetage sans moteur. Et en fait, comme ça, on efface la trace de ceux qui sont arrivés pour les empêcher de poser une demande d'asile, quoi.
Et ça se fait loin des regards, parce que ces îles, elles ne sont pas habitées par personne ou...
Alors si, elles sont habitées par des gens, mais en fait, évidemment, les canots de migrants, quand ils arrivent, c'est plutôt la nuit, parce qu'il ne faut pas se faire repérer par les gardes-côtes turcs, qui, depuis qu'on a un accord avec du coup, la Turquie, ont pour obligation, en principe, d'empêcher les gens de partir de la Turquie. Donc on parle plutôt la nuit, du coup, les renvois illégaux en mer se font aussi la nuit. Il faut imaginer des bateaux extrêmement silencieux, ils ne font absolument pas de bruit, et en fait, quand ils se rapprochent de bateaux de migrants, ils éteignent toutes les lumières. Donc on les voit plus, ils disparaissent, ils ont des systèmes pour pouvoir naviguer complètement dans le noir. Et en fait, s'ils en attrapent au petit jour, ils vont enfermer les migrants dans des sites abandonnés. Donc par exemple, ça va être des cahutes de pêcheurs abandonnées sur les îles, le temps d'attendre la nuit. Et puis ensuite, on les renvoie illégalement.
Et ça, c'est qui ? C'est la Grèce qui fait ça ? Ou c'est Frontex ?
Alors, ce sont les gardes-côtes grecs avec l'aide de Frontex. Frontex, donc l'agence européenne de garde-frontières. Comme je l'expliquais dans l'atelier, Frontex, en fait, a délibérément caché l'existence des pushbacks. De deux manières, ils ont enlevé les avions de surveillance. Normalement, Frontex a pour obligation de signaler toute violation des droits dans ces zones d'intervention, à savoir la quasi-totalité des eaux européennes. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé leurs avions des zones de pushback. Et l'autre truc qu'ils ont fait, c'est que normalement, quand il y a des opérations de renvoi, des opérations où ils chopent des bateaux, ils sont censés le mettre dans leur base de données. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, au lieu de parler de ces pushbacks, ils vont considérer que c'est des simples opérations de ce qu'ils appellent des opérations de retour. C'est-à-dire, par exemple, des gardes-côtes turcs chopent des gens dans leurs eaux territoriales et ils les ramènent jusqu'à leur rivage. Ce qui est une opération légale, puisque c'est dans le territoire turc. Normalement, à partir du moment où ils arrivent sur le territoire européen, la mer européenne, on n'a pas le droit de les empêcher de déposer une demande d'asile. Du coup, ils vont transformer des opérations qui sont des pushbacks, les gens sont bien arrivés en Grèce, en faisant comme s'ils n'avaient jamais quitté les eaux territoriales turques, ce qui est interdit. Et il faut savoir que du coup, il y a eu un rapport qui a été fait par l'Office européen de lutte antifraude en 2022, dans lequel ils ont interrogé des gens de Frontex, qui expliquent qu'à l'époque, ils considéraient qu'il y avait une guerre qui était faite contre les migrants. Et le président, le directeur de Frontex de l'époque, qui est un Français, qui s'appelle Fabrice Leggeri, il a dû démissionner suite à ça, parce que ça fait un scandale. Et actuellement, il est député pour le Rassemblement National au Parlement européen. Il a fait partie des gens qui ont participé à la mise en place des directives retour, les hubs de retour du pacte asile et immigration. Voilà.
Rappelons-nous que ces gens sont des nazis.
Oui, c'est ça, exactement. Et tu dis d'autant plus vrai qu'il faut savoir qu'en Grèce, une partie, on sait, alors je ne me souviens plus s'il y a des chiffres officiels, mais on sait qu'une partie de la police et de l'armée grecque votent massivement obdoré, donc un parti néo-nazi. Donc on a quand même une continuité. Un parti qui est officiellement néo-nazi, c'est pas moi qui décrète ça. C'est-à-dire que leurs symboles sont vachement liés aux croix gammées et vraiment à un imaginaire... du Troisième Reich, quoi. Donc,
Pourquoi tu t'es intéressée à ça, Alice ?
À la base, j'étais pas du tout partie pour travailler sur les pushbacks, parce qu'en fait, moi, je travaillais sur l'évaluation de la vulnérabilité, qui est une procédure qui a été mise en place suite à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. C'est-à-dire que maintenant, quand les gens arrivent de la Turquie, au lieu de regarder leur demande d'asile, on regarde s'ils sont vulnérables ou pas. Et si on considère qu'ils ne sont pas vulnérables, on les renvoie en Turquie en considérant que c'est le pays tiers sûr responsable de leur demande d'asile. Parce qu'il y a un certain nombre de critères, ça peut être femme enceinte, mineure non accompagnée, mais aussi personnes qui ont subi des violences des physiques, sexuelles, psychologiques. Et je me suis posé deux questions. Quels sont les stéréotypes de genre qui interviennent dans l'évaluation de la vulnérabilité ? Parce que majoritairement, ce sont des hommes jeunes et il y a des stéréotypes qui considèrent que la masculinité ne peut pas être vulnérable. Ça pose déjà un certain nombre de questions. Comment on prouve aussi, par exemple, qu'on a été violé ? Comment on prouve qu'on a été torturé quand les tortures aujourd'hui laissent de moins en moins de traces ? Et l'autre question que je me posais, c'était qu'en est-il des violences faites par la police dans les commissariats et par les gardes-côtes ? Est-ce qu'on considère que c'est un motif d'octroi la reconnaissance d'une vulnérabilité ? Non. C'est-à-dire que ces violences sont cachées, elles ne sont pas reconnues par l'État grec qui considère encore aujourd'hui que les pushbacks n'ont pas lieu.
Mais pourquoi tu t'intéresses à ce sujet ?
Ah, ça me paraissait scandaleux. J'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là juste après les arrivées de migrants en 2015, qui étaient assez fortes en Grèce. J'étais scandalisée par ce qui se passait. Ça peut paraître très naïf, mais...
T'as un lien avec la Grèce ?
Non, aucun. Aucun. C'est juste que je me disais, on ne peut pas faire ça à des gens, très naïvement. Je me disais que c'est pas possible, c'est intolérable. Et en fait, plus je le creusais, plus je me rendais compte que c'était encore pire que ce que j'avais prévu. Et en fait, je suis tombée sur cette pratique-là parce qu'elle est cachée. Donc en fait, moi, je suis restée 6 mois à Samos. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les pushbacks avaient lieu à 5 km de chez moi et je ne le savais pas. Et j'ai pas pu empêcher des gens de se faire envoyer. Il y en a qui sont morts. Et c'est de dire, j'ai pas pu... même si c'est naïf, mais tu te dis, j'ai pas pu les sauver, quoi. J'ai pas pu empêcher, parce que je savais pas. Comme les trois quarts des gens savent pas ce qui se passe sur ces îles. C'est le secret de Polichinelle, quoi. Et en fait, j'ai commencé à avoir des témoignages de survivants. Et en fait, plus en creusant, plus en fait, je me rendais compte qu'en fait, tout le truc, tu ouvres et tu te rends compte que c'est tout le monde. Et c'est les gens que j'ai rencontrés avaient vécu parfois 3 pushbacks. C'était leur 3e tentative, 4e tentative qui du coup avait été fructueuse, mais 3 pushbacks avant. Et ils étaient plus traumatisés parce qu'ils avaient vécu aux mains des gardes-côtes grecs que ce qu'ils avaient vécu dans leur pays et qui avait conduit à leur départ. Ce qui pose quand même vraiment, vraiment question.
T'es sociologue, est-ce que t'en fais une étude de ça plus précisément ?
Ouais, exactement. Alors du coup, c'était l'objet de ma thèse, que j'espère pouvoir faire publier. Je ne me suis pas encore posé sur la question, mais il va falloir que je
fasse ça. Faire des amis.
Ouais, c'est ça, exactement. Je vais essayer de l'écrire en livre. Après, j'essaie d'intervenir aussi le plus possible dans les médias quand il se passe un événement en lien avec ça. En 2023, il y a eu un pushback qui est en fait considéré au départ comme un naufrage. C'est le naufrage de l'Adriana. Et du coup, c'est plus de 650 personnes qui meurent suite à un pushback. C'est quelques jours avant que le Titan, le sous-marin, implose sous la mer. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce naufrage va complètement disparaître des radars. On va se concentrer que sur ce Titan où il y a les quelques milliardaires qui vont mourir. Et ce que je trouve fascinant, c'est que le sous-marin du Titan descend à 4000 mètres sous l'eau. Là où il y a le Titanic, hein, tout simplement, évidemment. Et en fait, la carcasse du bateau de l'Adriana va aussi tomber à 4000 mètres sous l'eau, donc à 2 endroits différents qui n'ont rien à voir. Mais il y en a un où aller chercher les corps et l'autre, non. Les autres, on n'ira pas chercher les 650 personnes qui sont décédées. Et voilà. Donc j'ai essayé d'aller arrêter auprès de la télévision. J'ai été sur France 24, France Inter, etc. Mais on a l'impression de... Quelqu'un m'a dit tout à l'heure hurler dans un verre d'eau. Mais vraiment, c'est malheureusement documenté, etc. Mais on se bat contre des géants, quoi.
Est-ce que tu fais aussi une analogie entre ce que tu as pu documenter sur les frontières donc gréco-turques avec ce qui se passe sur les nôtres de frontières, donc entre la France et l'Angleterre et entre la France et l'Italie ?
Ouais. Alors en fait...
Parce que ça pushback aussi.
Bien sûr, exactement. En fait, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde dit pourquoi il n'y a pas de réaction des autres pays européens. Il faut savoir que l'intégralité des pays européens font des pushbacks. C'est juste qu'on va avoir des différences liées à l'environnement, tout simplement. Il n'y a pas forcément la mer. Et quand il y a la mer, par exemple, côté anglais et français, on a cette question de qui vient assister les gens quand ils sont en situation de danger sur les bateaux. On voit bien qu'il y a des ping-pong entre les Anglais et les Français qui se renvoient la responsabilité, qui n'interviennent pas. Et puis à un moment donné, il y avait eu la possibilité qui avait été envisagée de légaliser les pushbacks, de faire que voilà, les Anglais aient le droit de renvoyer dans les eaux françaises toutes les personnes qui tenteraient la traversée. Maintenant, là, la politique qui a été adoptée, c'est de lacérer les bateaux de personnes qui partent de Calais. Donc on va, voilà, les policiers vont mettre des coups de canif dans les canaux pneumatiques pour empêcher qu'ils partent. Et on a toujours cette question qui est encore d'actualité de qui vient sauver. Et on sait qu'il y a des bateaux où juste ils ont laissé traîner et les bateaux se sont retournés. Et en fait, voilà, c'est la même chose entre la France et l'Italie. On renvoie.
Là, en plus, c'est en montagne.
Ouais, exactement. On renvoie, on se fait des ping-pong de migrants. Ça a été la même chose en Europe de l'Est, sur d'autres frontières. Ceuta et Melilla, donc entre l'Espagne et le Maroc, même chose. On est sur des situations extrêmement dangereuses. Je m'intéresse aussi à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, où voilà, là, ça va être un fleuve qui sépare la Maritza. C'est la chanson de Sylvie Vartan, la Maritza, malin, etc. Ce fleuve-là, il est traversé donc, par des migrants. Et là, c'est la même chose. C'est les gardes frontières turcs et grecs qui se font des ping-pong où ils se renvoient les migrants et les gens sont coincés au milieu et dans des conditions où ils sont sur des îlots, ils n'ont rien à manger, rien à boire et parfois pendant des semaines, quoi. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de le souligner parce qu'on a eu effectivement tout un des mots très forts contre ICE aux États-Unis et à raison. Mais en fait, il faut savoir que aux frontières européennes, la violence, elle est déjà là. C'est juste que nous, on la cache, elle est moins visible que ICE, certainement, mais on est complètement là-dedans. On est déjà dans des mises à mort des migrants aux frontières européennes.
L'atelier de ce matin, donc la mer comme mur, oui, se concentrait aussi sur principalement sur ces îles qui ont été des bagnes à un certain moment, qu'ils redeviennent à d'autres moments, pour faire un peu le lien avec l'enfermement. Est-ce qu'aujourd'hui, ces îles sont encore massivement utilisées de cette manière-là ?
Oui, sur le cas des hotspots greffes, Samos, Chios, etc., c'est des îles qui abritaient des léproseries, donc des endroits où on enfermait les lépreux, des endroits, des hôpitaux psychiatriques, des endroits où on envoyait les opposants d'extrême gauche à la dictature des colonels en Grèce. Donc c'est des lieux qui ont toujours en fait été des lieux d'enfermement, puisque du coup c'est extrêmement difficile de traverser la mer pour rejoindre le reste du territoire. Et en fait, parfois certains lieux, par exemple typiquement des hôpitaux psychiatriques, etc., vont être réinvestis pour devenir des lieux d'enfermement pour les migrants. Donc on voit bien une histoire une espèce de continuité de ces espaces qui ont cette histoire de l'enfermement. Sauf que là, c'est des îles très belles, hein, il faut le dire.
Oui, touristiquement, c'est...
Ouais. Alors, en fait, au moment où il y a 2015 qui arrive, on va avoir progressivement une chute du tourisme sur ces îles-là, qui, en fait, nécessite le tourisme. C'est la majorité de leur économie qui est basée sur le tourisme.
Comme Lampedusa.
Exactement, même chose. Du coup, ça crée un espèce de sentiment d'hostilité de la population locale. Et en fait, il faut se dire que sur les îles grecques, la plupart du temps, les gens travaillent 6 mois de l'année, le mois d'été. Toute une partie jusqu'à octobre, et puis après le reste du temps ils vivent sur ce qu'ils ont gagné. Ils sont sans emploi, ils ont une petite rente là, et en même temps ils vivent avec ce qu'ils ont gagné. Donc en fait, au moment où ils voient les arrivées de touristes baisser, ils se disent vraiment littéralement comment on va survivre, et d'autant plus que la crise économique en Grèce, elle a fait des ravages. Donc c'est vraiment une situation extrêmement dure. Du coup, il y a tout un mouvement anti-migrant qui va émerger sur les îles, et particulièrement à Lesbos, où il y a des militants d'extrême droite qui vont venir, vont faire des ratonnades de migrants, et qui vont aussi frapper des associatifs. Ils viennent avec des barres de fer, et ils détruisent des camps, ils incendient des espaces de stockage, par exemple, de jouets, de vêtements, etc. Et donc on a un espèce de cercle vicieux où on enferme des gens sur des îles. Ni les habitants, ni les migrants ne volent de ces camps. Et en même temps, ils demeurent j'irais même jusqu'à dire ils deviennent de pire en pire. Pour faire un parallèle, il faut savoir que les nouveaux modèles de camps qui ont été créés sur les îles en 2021, les Close Control Access Centers, toute la technologie qui est utilisée dans ces camps-là est une technologie israélienne de surveillance qui a été mobilisée dans d'autres situations. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, les migrants, pour rentrer dans le camp, ils doivent poser leurs mains sur des détecteurs d'empreintes digitales. On est sur un régime de sur-surveillance extrêmement dangereux.
Et est-ce que tu as chiffré...
Alors, je n'ai pas les chiffres exacts sur moi, je les ai dans ma thèse. Par contre, des chiffres très précis, parce que là, on est sur le pacte asile et migration. Donc, le pacte asile et migration, pour vous donner une idée, donc, le principe, c'est de créer des hubs de retour, donc de faire des accords avec des pays en dehors de l'Union européenne, hein, des accords d'externalisation, avec le but que, en gros, ils récupèrent... tous nos migrants dont on ne veut pas, et ensuite qu'ils les renvoient vers d'autres pays type Rwanda, etc., soit qu'ils les gardent, hein, voilà, ils se démerdent avec nos migrants. Et en fait, ces accords là historiquement n'ont jamais marché. C'est tout simple, avec le Rwanda, Royaume-Uni, Rwanda, on sait que ça a été un échec colossal. L'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur le premier versement d'argent, c'était 6 millions d'euros.
On a donné 6 millions d'euros à la Turquie.
L'Union européenne, on a donné un premier versement de 6 millions d'euros jusqu'à 2020. Pour ce premier versement, les termes de l'accord, c'était la Turquie doit bloquer les migrants qui essaient de traverser pour atteindre l'Union européenne. Ça, ils ont respecté les cadres de l'accord. Et nous, notre obligation, c'était de renvoyer tous les migrants considérés non vulnérables et tous les Syriens. Et on considérait du coup que pour chaque Syrien renvoyé, on récupérait des Syriens qui étaient bloqués en Turquie. C'est un système de 1 pour 1.
Et on se deal du migrant.
Voilà, exactement. C'était ça, totalement.
C'est plus glauque.
ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, la Turquie a en fait récupéré sur la période de 2016, donc début de l'accord, à 2019, ils ont récupéré 2000 migrants. Ce qui est absolument rien du tout. À l'inverse, c'est la même chose. Nous, on n'a quasiment récupéré aucun migrant de Turquie. Et donc, la Turquie, pour un certain nombre de raisons, y compris a bloqué l'accord en 2020. Ils ont arrêté de le respecter. Et il y a eu un nouveau versement, donc ça a recoûté de l'argent. Et pour la période, il me semble que c'est 2021-2027, je crois, à vérifier. Là, on a redonné 5,5 millions d'euros. Donc, même chose, je pense qu'ils récupèrent rien du tout en termes de migrants. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des procédures extrêmement longues. Et ils les font durer. Et là, on est à nouveau sur une situation où les camps des îles sont blindés. Ils sont en surpopulation. C'est exactement la même situation qu'avant. Voilà. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça coûte énormément d'argent. Et ça ne sert à rien. C'est pas efficace. Les pays ne veulent pas récupérer ces personnes. Donc en fait, on a juste de l'argent qui part. On n'a aucun moyen de regarder comment il est utilisé. On avait fait la même chose avec la Libye, entre l'Italie et la Libye. On sait qu'une partie de cet argent a été utilisée par Kadhafi au moment des printemps arabes, au moment où voilà, il a
repressé ça.
Exactement. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que comme on n'a aucun droit de regard sur ce qu'il arrive de cet argent, en fait, on donne le droit à ce que cet argent soit utilisé pour réprimer des mouvements contre des régimes pas forcément démocratiques, quoi.
Comme dans toute situation d'enfermement sur ces îles, il y a probablement des risques sanitaires qui sont aussi en train d'arriver, des problèmes sociaux, tu l'as dit. Vers quoi on va et puis peut-être l'occasion de rappeler que c'est pas possible d'arrêter les gens de vouloir bouger.
Ouais. Alors en fait, on sait que depuis que ça avait plusieurs effets, depuis qu'on a mis en place cet enfermement sur les îles, déjà on a basculé sur un régime très à droite en Grèce, dont les idées fleurent vraiment l'extrême droite, parce qu'en fait justement il y a ce sentiment anti-migrant qui a monté depuis qu'en fait on s'est mis à bloquer les migrants en Grèce, un sentiment de laisser pour compte, hein, d'être des pays de l'entrée de l'Union européenne à gérer tout seul la question migratoire. Donc ces premières choses, c'est une montée de l'extrême droite forte dans les pays du pourtour de l'Union européenne, mais malheureusement dans tous les pays de l'Union européenne. Les nouveaux camps ont été construits sur des lieux qui ne sont pas du tout appropriés. C'est des lieux qui sont extrêmement exposés aux intempéries. Donc c'est-à-dire que quand il fait très chaud, il n'y a pas d'arbres. C'est des zones très arides. Et à l'inverse, quand il pleut, c'est des zones qui n'absorbent pas du tout l'eau. Donc les camps sont systématiquement inondés. Les conditions deviennent rapidement invivables. Il n'y a toujours pas assez de points d'eau, toujours pas assez de points d'hygiène. Et voilà, en fait, évidemment, c'est des conditions extrêmement difficiles, mais voilà, en fait, on crée juste des espaces d'enfermement durables où les gens sont coincés pendant des périodes incertaines. En fait, le modèle grec donc, que je raconte, là, cette évaluation de la vulnérabilité, etc., avec le pacte asile et migration, il est en fait reproduit à toutes les frontières externes de l'Union européenne. Donc, par exemple, maintenant, à l'aéroport de Roissy, dans tous les ports français, on va faire cette évaluation de la vulnérabilité, on va refaire un certain nombre de procédures pour empêcher les personnes in fine de pouvoir déposer une demande d'asile. Voilà.
Vers quoi il faudrait aller pour que ça cesse? Pour qu'on change notre politique d'intégration migratoire?
Alors déjà, je rappelle que les élections arrivent en 2027 et que là, il y a un enjeu assez fort parce que on sait que si on bascule vers l'extrême droite, ces politiques-là, elles vont être évidemment, elles vont empirer. Et il ne faut pas sous-estimer ce que ça peut représenter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. On l'a vu avec Trump. En fait, en un temps hyper restreint, on a un nombre de politiques extrêmement dangereuses qui sont mises en place. C'est des gens qui meurent. Le ICE, rappelons-nous quand même que le taux de mort en prison d'étrangers a explosé sous Trump, le nombre de personnes, alors même s'il nie les chiffres évidemment parce que c'est Trump, c'est littéralement des gens qui vont mourir en fait si on bascule extrême droite.
Ils épurent
En fait c'est juste que les conditions de détention sont tellement horribles que en fait, quand les personnes ont des problèmes de santé, elles ne sont pas, on n'appelle pas les médecins. Donc en fait, le taux de mort en prison a complètement explosé aux États-Unis. Et donc, je ne sais pas si c'est positif, mais c'est plutôt il faut se mobiliser en termes de lutte. Actuellement, là, il va vraiment falloir se mobiliser en vue des élections, même si les élections ne résolvent pas tout. Là, il y a vraiment un enjeu qui est en fait massif pour toutes les personnes qui sont racisées. Et évidemment pour toutes les personnes LGBT, etc. La bascule à l'extrême droite, c'est très concret ce qui se passe. C'est pas abstrait, c'est pas dans un temps lointain, etc. Ça pousse des gens dans des situations telles que certains vont mourir. Donc, il faut se battre. On n'abandonne rien, on lâche rien, on n'oublie pas les élections. Voilà, on continue la lutte.
Ça ferait une belle conclusion. Est-ce que tu voudrais une parole libre ?
Oula, une parole libre. J'ai l'impression que je vais dire que des choses extrêmement bateaux. Mais j'avais été frappée, parce que du coup, j'étais intervenue sur France 24 pour parler du naufrage de l'Adriana. Et j'avais été frappée par... Donc la vidéo est sur YouTube et en fait, les commentaires d'extrême droite extrêmement violents qui ont été mis sous la vidéo. Et bon, ça, je m'en fous pour moi, mais je... Voilà, je...
Sociologiquement, ça veut dire quelque chose, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que... malheureusement, on est souvent taxé de bien-pensance, mais défendre les juste la vie, les droits de l'homme, j'ai l'impression que c'est d'une forme de radicalité aujourd'hui. Mais voilà, c'est un peu bateau, mais je dirais, voilà, n'abandonnons pas ça, il y a trop à perdre si on lâche ça.
Alice, merci.
Merci beaucoup.